Tech, la voix du guerrier, on peut l'appeler.
Oui.
Est-ce que selon vous, elle est adaptée parfaitement à ce monde que je qualifierais de 2.0, le monde actuel?
C'est moi qui ai fait l'adaptation. L'œuvre de Castaneda, c'est le récit d'un homme en plein milieu d'un désert avec un Indien, frustre, et je veux dire, qui sait même peut-être pas lire et écrire, mais qui est un grand chaman, un homme de très très grande intelligence et d'un grand cœur. Mais ça, ce chamanisme-là, il est fait pour les Indiens. Moi, j'ai fait mon premier livre important, c'était « Chaman, le chemin des immortels ». Et ce livre-là montre que les diverses pratiques du chamanisme toltèque, elles sont totalement adaptables à l'homme moderne.
Oui.
Totalement. Moi, je pratique tous les jours. Et toute l'année, j'anime des stages de 6 jours, qui sont des mini-formations, et aussi des stages de repiquage, on va dire, d'approfondissement de 2 jours, puis aussi des stages de 2 jours, surtout concentrés, condensés sur le travail corporel, le rapprochement du corps et de l'esprit, et aussi des coachings chamaniques individuels.
Alors, vous parliez de l'âme tout à l'heure. Alors, j'ai cru lire et comprendre à travers votre dernier livre que l'âme, pour les chamans, était quelque chose de très concret, à la différence peut-être, parce que vous fustigez un peu la religion, vous fustigez un peu la science, vous les mettez un peu dos à dos, en expliquant que l'âme, pour ces deux grands univers, c'est pas vraiment quelque chose de palpable. Alors que pour le chamanisme, oui, d'ailleurs, vous parlez de réalisme spirituel.
Ouais.
Et est-ce que la couverture de votre livre, où on voit un arbre avec une sorte de femme solaire en feu à l'intérieur, est-ce que ça pourrait être une image justement de l'âme?
Alors cette image, je commence par l'image. C'est une image de réalisme spirituel. On voit un être féminin, rayonnant, qui a le bas de son corps enraciné dans un arbre, un peu comme un vieil olivier avec des racines très très puissantes. Donc ça, c'est le réalisme. Et spirituel, c'est le fait que tout son corps est porté vers le haut et que l'arbre est un arbre arborescent, très vivant, très rayonnant aussi. Dans le chamanisme chinois, il y a une dualité qui est sans arrêt présente dans l'enseignement. C'est la terre et le ciel, qu'ils appellent aussi le double enracinement. On n'est pas seulement enraciné dans la terre quand on travaille sur la conscience de son corps, on est aussi enraciné là-haut, en haut de la tête, parce qu'on est connecté avec les étoiles. Alors, l'âme, donc la première question que vous posiez, c'est quelque chose de très concret. Dans les religions, moi ce que j'ai retiré du monothéisme dans lequel j'étais élevé étant petit, c'est-à-dire le christianisme, ce que j'en ai retiré, ça c'est mon interprétation personnelle, c'est que l'âme c'est quelque chose qui semble n'intervenir qu'à la fin de notre vie quand on va mourir.
La pesée des âmes.
Oui, oui, voilà, c'est ça, la pesée des âmes. Quand vous allez mourir, vous allez peut-être aller au paradis, mais peut-être en enfer, ou peut-être au purgatoire. Et là, votre âme, puisque c'est la partie de vous qui est immortelle, va être jugée. Bon, c'est assez enfantin. L'âme, pour les chamans, c'est tout de suite, ici et maintenant, qu'il faut l'utiliser, puisque c'est un corps lumineux. Alors, scientifiquement, quelque chose qui n'a pas été interprété comme l'âme a été découvert par des scientifiques, notamment par un professeur allemand, un généticien qui a travaillé 40 ans pour montrer que tous les êtres vivants émettent autour d'eux une lumière qui est faite. Alors, compte tenu de l'orientation scientifique de son travail, lui, il a parlé d'ultraviolet à basse tension. Donc, il a pu photographier avec un cliché Kirlian cette aura, qu'on appelle aussi l'aura, autour du corps humain ou autour d'un végétal ou autour d'un animal. Et lui, il a interprété ça comme simplement de l'énergie. Mais c'est un livre extraordinaire parce qu'il n'est pas le seul à avoir parlé de ça, hein, de cette découverte. Un scientifique, comme tout chercheur, dans sa tête, il a un schéma d'avance. Donc il cherche avec des moyens qui correspondent au schéma de ce qu'il juge être la réalité ou pas la réalité. Donc lui, il a découvert les ultraviolets à basse tension. Moi, je suis persuadé qu'il y a d'autres fréquences. Là, on est en train de parler en termes scientifiques. Donc l'âme, on peut concrètement la voir. Si moi, je me mets en état de silence intérieur pendant 1 heure, ou sous l'effet d'une très forte émotion, je vois le corps lumineux autour de ton corps physique. Je le vois. Par exemple, quand j'ai connu ma femme, il y a 9 ans, j'ai vu son corps lumineux parce qu'elle a créé en moi une très forte émotion. C'était mon élève. Et cette émotion a fait qu'à sa droite, j'étais derrière, j'ai vu son corps lumineux. Voilà, l'âme, à quoi ça sert? Et l'âme, il faut l'utiliser tout de suite, ici et maintenant. Tout le monde a une âme. Hein. Là, sur la place de la Comédie, t'as plein d'âmes en train de se promener.
Oui. Mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a des âmes qui sont désincarnées?
Alors, oui, oui, bien sûr. Ouais. Lorsque nous...
D'ailleurs, est-ce que c'est ça qu'on appelle les alliés ou les... dans le chamanisme, Toltec notamment?
Alors, dans le Nagual, il y a plein d'êtres non incarnés.
Ouais.
Mais à mon avis, hein, je n'ai pas été partout dans tous les recoins parce que c'est l'infini. Je n'ai pas encore vu beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Dans l'ensemble, au cours de ma vie quotidienne, c'est plutôt le Nagual qui vient vers moi, mm-hmm. qui m'absorbe. Bon, à un moment donné, je faisais pas mal de rêves. Je faisais du rêve et j'y allais. Mm-hmm. Et depuis que j'ai commencé à écrire des livres, ce qui prend pas mal l'intellect, ça a créé une différence de rapport et le Nagual me nourrit. C'est-à-dire que sans que j'ai besoin de me mettre en état de conscience élargie, de faire le silence intérieur longuement dans ma tête, j'ai comme créé une ouverture à l'intérieur de mon corps lumineux, une perméabilité, et je suis en contact doux, presque ordinaire, avec le Nagual. C'est ce qu'on appelle aussi la créativité. Si tu vois de grands artistes, de vrais artistes, ce sont des gens qui sont connectés à travers leur âme avec le Nagual. Ils reçoivent plein de cadeaux. C'est le Nagual s'exprime à travers eux dans la peinture, dans la sculpture, dans la musique, dans la composition, dans le chant, dans tous les arts. L'art est une expression du Nagual. Parce que le Nagual, c'est le chant de la créativité illimitée de l'univers. Le tonal, ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, la conscience ordinaire, c'est le chant de l'incarnation dans la matière. Donc ces deux mondes-là sont appelés, communiquent ensemble depuis l'éternité des temps, mais pour des individus privilégiés, très rares. Les grands initiés, les grands sages, les grands saints, les grands artistes, etc. D'une autre manière, l'artiste que le mystique. Et ce que voulait nous dire Don Juan à travers Castaneda, c'est que maintenant, cette rareté, ce privilège, il faudrait qu'il devienne accessible à beaucoup plus de gens pour que l'humanité fasse un cinquième pas dans son évolution. Voilà le grand message de Castaneda et de Don Juan.
Dans les deux derniers livres, j'ai évoqué la couverture tout à l'heure, mais c'est vous qui dessinez, c'est...
Non, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas du tout un artiste. J'ai dû être dans une autre vie, j'ai toujours pensé que j'avais été un artiste peintre ou dessinateur, mais non, pas du tout. Mais j'aime rencontrer des artistes parce que j'aime que mes couvertures soient fortes. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. Parce que d'abord au niveau commercial, c'est pas négligeable, il faut que les gens qu'ils soient connectés à partir du cerveau droit. Cerveau gauche, c'est le cerveau intellectuel. Cerveau droit, c'est le cerveau créatif et imagé, de l'image. Donc moi, j'aime bien faire plaisir aussi. Et je pense que cette couverture, elle doit symboliser le sujet central du livre. Par exemple, la créature, l'elfe là, dans l'arbre, flamboyante, la femme flamboyante, la rayonnante, avec les racines et l'arbre qui fructifie, c'est ça le réalisme spirituel. Le réalisme spirituel, c'est un projet pour l'homme aussi futur. C'est à cause du matérialisme de ne pas mettre la science de côté, la vraie science, la science non destructive, la science de recherche, la science respectueuse de la vie, de ne pas la mettre de côté parce qu'on va revenir à la spiritualité. Les deux peuvent s'associer parce que la spiritualité de chamanisme n'est pas quelque chose d'évaporé, n'est pas quelque chose qui est anti-scientifique. C'est pas quelque chose qui rejette la matière. Au contraire, le corps, c'est glorieux pour les chamans, mais il faut qu'il y ait du respect. Or, dans le matérialisme actuellement, il n'y a aucun respect du corps, aucun. Quand on voit comment est vécue la sexualité, quand on voit comment on nous invite à bouffer, malbouffe, surbouffe, bouffe empoisonnée, il n'y a pas de respect du corps. Donc la science, une science qui respecterait la vie et une spiritualité qui serait énergétique, donc très très proche de la science quelque part, peuvent très très bien coopérer. Mais il faut que chacune écoute l'autre. Or, pendant 2000 ans de christianisme, on a bien vu qu'on a brûlé des astronomes. Et on a persécuté des savants qui avaient découvert que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du soleil. La religion chrétienne n'a jamais été très portée sur la science, parce qu'elle considérait la science comme une rivalité. De son côté, le matérialisme qui sévit actuellement dans le monde occidental en particulier, mais sur la Terre entière, de plus en plus, a un grand mépris pour la spiritualité. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'être curieux sur l'univers. Moi, je suis spiritualiste, mais j'adore l'astronomie. Je suis très curieux, je lis beaucoup de livres sur l'espace, sur les particules, sur la physique quantique, c'est très très intéressant. Ce que je n'aime pas dans la science, et il y en a beaucoup malheureusement, c'est le fait qu'elle se soit accoquinée avec le monde de l'argent et le mythe du progrès pour empoisonner la vie quotidienne des gens. Parce que quand tu vois toutes les introductions scientifiques dans le quotidien de l'être humain actuellement, on n'a pas une qui ne fait pas de mal. Alors que la roue, la boussole, la voile, le gouvernail et bien d'autres choses encore, qui sont des découvertes scientifiques pour l'époque, n'ont jamais fait de mal à personne. C'est des belles découvertes, c'est des découvertes saines et respectueuses de la vie. Et on peut aller encore plus loin.
Oui, revenons à Jésus. On parlait christianisme. Et vous, dans votre livre, même si vous fustigez à la fois la religion et la science, vous accordez un chapitre tout entier d'ailleurs à Jésus. Qui est-il pour vous ?
Pour moi, c'est un guérisseur. Oui. Tout le long des évangiles, tout le long du Nouveau Testament, on le voit pas arrêter de guérir les gens. Or, qu'est-ce que fait un chaman traditionnel ? Il guérit. Il guérit les gens ou il les aide à guérir, comme moi. Moi, je suis plutôt dans l'auto-guérison. C'est ma voie. Mais ça revient au même. C'est-à-dire, j'éveille les gens à leur pouvoir intérieur de se guérir. Tout le long des évangiles, on voit Jésus guérir. Il n'arrête pas. Deuxièmement, après, moi, j'ai analysé pas seulement la religion chrétienne. J'ai analysé l'islam, j'ai analysé l'hindouisme, j'ai analysé le taoïsme. Et puis, j'ai attrapé un regard un peu distancié sur le phénomène religieux en lui-même, qui est pratiquement toujours un déformateur des voies spirituelles initiales créées par des grands initiés, des grands sages. Il y a toujours une récupération, surtout dans les monothéismes. Quand tu vas en Inde, et que tu passes un long moment en Inde, ou dans une Chine traditionnelle comme Taïwan, pas la Chine communiste actuelle, où la spiritualité est très mal vue, tu t'aperçois que il n'y a pas cette récupération pour faire du pouvoir social de la spiritualité. En Inde, tu peux trouver évidemment beaucoup de folklore, parce que les Européens, ils adorent ça. Alors, il y a des pièges touristiques, du tourisme spirituel. Mais si tu veux vraiment chercher, tu vas trouver des gourous et des saints, des magiciens, des chamans. Mais ils ne s'appellent pas chamans, c'est des sages hindouistes qui sont authentiques et qui font des prouesses extraordinaires. Mais j'ai l'impression que c'est spécifique au monothéisme d'en faire un instrument de cohésion sociale. C'est pas méchant déjà comme mot, mais après ça devient autre chose. Je suis en train de lire en ce moment un livre sur les Plantagenets, la première dynastie anglaise qui a régné pendant 300 ans en Angleterre à partir d'Édouard le Confesseur. Tu aperçois que des évêques, des cardinaux étaient souvent sur le champ de bataille en train de faire la guerre, de tuer à bras-le-corps des tas de gens, décapiter des gens, tuer des gens à la lance, au couteau, etc. et de chercher des charges très fructueuse, très profitable auprès du roi en échange de leurs services guerriers. S'en foutait complètement de la religion. Et quand tu vois la papauté, ce qu'elle a fait, ce que j'appelle le pouvoir césaro-papiste, qui a toujours été un associé de l'asservissement du peuple par les seigneurs, c'est quand même lamentable. Il n'y a pas que ce côté de récupération d'outils pour faire de la cohésion sociale dans le christianisme. Il y a aussi l'incohérence de ses représentants. Cardinaux et papes et prêtres, et un essoufflement actuel du christianisme qui est déplorable parce que l'Europe est en train de tomber sous l'influence d'une religion beaucoup plus obscurantiste encore.